Salutations à cette belle audience ici ce soir, Sœur Webster et Frère Green, ainsi que toute l'audience, les membres de cette assemblée. C'est toujours un privilège pour moi de venir à la maison du Seigneur, et puis ce soir d'être de nouveau dans une de ces églises Four Square. Et quand je suis allé à Los Angeles pour la première fois, j'ai entendu qu'il était en là-bas. Et je suis allé remercier Dieu pour cette vie noble. Depuis, j'ai vu l'enseigne Four Square dans presque tous les pays où j'ai travaillé comme missionnaire. J'ai eu le privilège d'aller dans le temple, d'attendre dans sa salle d'attente avant d'aller à la chaire. Elle avait une salle là et je me suis assis plusieurs soirs quand je prêchais au temple. Et je pense aux heures où elle a dû méditer avant d'aller en chair, le caractère sacré de l'ouverture de la parole de Dieu. D'être ici ce soir avec certains de ces partisans qui essaient de garder ce message, que Dieu soit avec vous et vous bénisse. Et puis d'être de retour avec Frère Green, un cher ami précieux, frère et sœur Green. Et quand j'étais dehors, il y a un moment, et je l'ai rencontré, je lui ai dit combien j'ai aimé ce message en chanson l'autre jour là-bas chez les hommes d'affaires sur le nom de Jésus ou quelque chose comme ça qu'il appelait. Ils ne l'ont pas encore enregistré. Je lui ai dit, permettez-moi d'être le premier client. C'était un si beau chant. Et j'ai pensé qu'il pourrait le chanter pour moi ce soir quand je suis descendu. Ma femme et mes enfants sont là-bas au fond pour l'écouter. Et je suis sûr qu'ils l'ont aimé aussi. Et sa voix n'est pas... Elle est vraiment familière chez nous et j'ai beaucoup de ces enregistrements. Quand je me sens vraiment déprimé, j'entre et j'ai un de ces tourne-disques, j'y mets... tout un tas de disques et puis je m'assois et je les écoute. Je vais dire à ma femme là-bas au fond que je viens d'en voir d'autres. Je les apprécie réellement. Ils sont un havre de paix. Juste d'entendre ces chants chrétiens, de savoir qu'ils ne sont pas chantés par une voix entraînée mécaniquement, mais qui viennent d'un coup, d'un cœur d'un vrai chrétien. Il m'a dit qu'il en avait encore quelque part ce soir. Je veux que ma femme et les autres jettent un coup d'œil et voir s'il y en a là-bas que nous n'avons pas et de s'assurer de les prendre. Je crois qu'ils les ont dans le vestibule. Vous savez, l'essentiel, c'est ce que je pense à propos de chanter. J'aime ceci, j'aime les voix entraînées, mais je n'aime pas les voix surentraînées. Puis vous voyez comme... Vous voyez combien de temps vous retenez votre souffle quand vous devenez le visage. Vous ne dites rien de toute façon, mais j'aime le bon vieux chant pentecôtiste où vous laissez aller chanter. J'aime ça. Et c'est le cas de Frère Green, lui et Sœur Green. Aussi, nous savons que c'est secondé par ces chorales et tout. C'est très bien de savoir que ces choses-là, on peut les avoir. Je crois que c'est... Frère Green et moi, c'est à Kansas qu'on s'est rencontrés pour la première fois, Frère Green et moi, à ce que je me rappelle quand on tenait les conventions là-bas, mais j'avais l'habitude de dire, eh bien, ce n'est pas encore le moment de venir, mais j'attends ma voiture et je voulais être sûr d'être. Et je lui ai dit, j'ai confiance qu'à l'un de ces jours, quand je traverserai de l'autre côté du fleuve, j'aime tellement chanter, je ne peux simplement pas chanter, voilà, c'est tout. J'ai toujours voulu chanter, je n'y arrive pas. Et j'avais l'habitude d'essayer de chanter un chant à l'église, une réunion à l'ancienne mode, dans un endroit là, et je gâchais tout. Je prenais la main de ma femme quand je rentrais à la maison, j'étais chérie, je n'essayerai plus jamais, alors dites-moi. Tous les autres étaient... un de ces jours, je vais chanter. Et j'ai toujours pensé peut-être là-bas sur la colline où le fleuve de la vie coule le long du trône, quand ce grand cœur de tous les rachetés, ces grandes voix seront sur la colline chantant. J'espère qu'il y a un petit arbre qui jette de l'ombre de l'autre côté. Si vous voulez me voir, allez dans ce coin-là, je serai assis là. Allez écouter. Et puis quand vous serez dans votre palais un bon matin et que vous sortirez sur la galerie de votre palais qui est quelque part là-bas, dans le bois, il y a une petite cabane qui a été construite quelque part. Et vous sortirez votre galerie, vous allez entendre quelqu'un dire « Grâce infinie, notre Dieu ». Vous allez dire « Oh, frère Branham y est arrivé !» Parce qu'il y est là. Il a finalement arrivé. Je vais pouvoir chanter. D'ici là, je n'ai plus qu'à faire un bruit agréable au Seigneur. Ne sommes-nous pas heureux? Nous n'avons rien à craindre, rien du tout. Nous sommes ancrés en Christ, assis dans les lieux célestes, déjà enlevés dans la grâce de l'enlèvement, assis dans sa présence, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. La mort elle-même ne peut pas nous toucher. Ancré au loin, rien ne peut nous déranger, simplement en sécurité, en attendant sa venue. Et nous en sommes reconnaissants. Maintenant, maintenant j'ai environ 50 000 avant de, et avec une belle assemblée, comme s'il me faut beaucoup de temps pour commencer. Et puis deux ou trois, plus de temps pour m'arrêter. Je veux donc essayer d'entrer dans le sujet, ce que j'ai l'intention de faire le plus vite possible. Je veux remercier les pasteurs, les associés et tout le monde pour cette occasion de venir ici pour donner mon témoignage de sa grâce ce soir dans cette belle assemblée. Je suis monté il y a quelques temps sur le South Mountain et j'ai regardé vers le bas dans la vallée. J'ai pensé il y a environ 35 ans quand je suis entré pour la première fois dans cette vallée. Comme cette ville s'est développée et s'est étendue dans toute la vallée de Maricopa, à perte de vue, c'est la ville. J'étais assis là avec ma femme et je lui ai dit, tu sais chérie, il y a peut-être 300 ans, il n'y avait rien d'autre que les coyotes et les sangliers. Ainsi de suite dans tous les pays. Et puis l'homme est venu et a commencé à construire. Puis la civilisation a commencé à s'étendre. Alors le péché et la violence se sont installés. Et je me disais, ne serait-ce pas un endroit merveilleux? J'avais toujours pensé qu'un jour j'aimerais vivre à Phoenix. Et puis en regardant la vallée, je pouvais presque dans mon cœur avoir envie de pleurer. Tant ce serait un bel endroit s'il était ici sans péché. Comme ils ont pris le désert pour en faire un lieu d'habitation. Aujourd'hui, on s'est promené au sommet de Camelback. De belles maisons là-bas, presque comme si vous entriez au paradis. Et puis ce serait beau, mais... Le péché est ici partout. Les bars à whisky, l'immoralité, tout ce qui est mal, toutes sortes d'appareils, des pièges de l'ennemi pour piéger les âmes humaines. Ma femme a dit, « Alors pourquoi es-tu ici, Billy ?» J'ai dit, chérie, c'est noir, mais tu sais, il y a à travers toute cette obscurité des petits points de lumière. Ce sont les élus de Dieu. Et je suis ici pour joindre mes efforts à leur, joindre mon cœur au leur, ma voix avec la leur et crier contre les ténèbres. C'est pourquoi je suis de nouveau à Phoenix. Que le Dieu du ciel nous aide et à la fin de la soirée de nos petites réunions qui traversent la ville, d'église en église, parmi toutes les donations du plein évangile, et qui vont se terminer avec la conversion des hommes d'affaires là-bas au Ramada, j'espère que nous laisserons une marque ici qui signifiera que dans la petite lumière qui a été dispersée, que beaucoup d'âmes trouveront Christ. Que beaucoup de malades qui ont la foi seront guéris. Nous commençons déjà à voir de résultats. Et j'ai confiance ce soir, il y en a qui viendraient ici ce soir sous le soin de ces refuges, de ces endroits, que quelque chose sera dit dans les chants, témoignages, dans la lecture de la parole, quelque chose qui fera en sorte que vous passiez cette porte, une personne différente de celle que vous, lorsque vous êtes entré. Aidez-nous tous à le faire. Et maintenant, nous abordons la prière. Courbons la tête un instant. Avec notre tête et cœur inclinés devant Dieu, y aura-t-il une requête parmi les gens ce soir, une chose spéciale pour laquelle vous voulez demander de l'aide du Seigneur? Levez simplement la main au fond de votre cœur et dites, Seigneur, tu sais ce que c'est. Merci. Que Dieu vous bénisse. Notre Père céleste, nous venons maintenant en ce nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, sachant ce qu'il a promis. Si vous demandez au Père quelque chose à mon nom, cela vous sera accordé. Nous venons d'abord confesser que nous avons fait des erreurs. Nous avons mal agi et aucun d'entre nous n'est bon, pas un seul. Et nous venons confesser nos péchés au nom du Seigneur Jésus. Nous demandons le pardon. Et tu as vu les mains des gens qui se sont levés ce soir. Et tu sais ce qui était sous cette main. Ce dont ils avaient besoin. Et j'offre ma prière avec la leur, la déposant sur ton autel et demandant la miséricorde. Afin que toi, Seigneur, tu aies pitié et que tu répondes à toutes les requêtes. Nous voulons te remercier pour cette église, pour ses pasteurs, et pour tous les laïcs, et pour tous les diacres et les administrateurs, et tous ceux qui y viennent. Bénis-les, Seigneur. Et nous savons que nos réunions et nos rassemblements seraient parfaitement en vain si tu ne venais pas à nous rencontrer. C'est pourquoi nous prions, Père Céleste, que nous ayons maintenant l'assurance que tu es avec nous. Continue, Seigneur, d'être avec nous toute la soirée. Aide-nous, Seigneur. S'il y en a ici qui, par hasard, sont venus de la rue ou de liens et de chemins du monde, qui ont été dans leur vie indifférents envers toi, que ce soit le soir où ils diront ce oui entièrement suffisant à Dieu et s'abandonneront à Jésus-Christ. Et s'il y a parmi nous des malades, Seigneur, tu es le grand médecin qui n'a jamais perdu un procès. Nous pensons au jour où nous vivons alors que les maladies et les ténèbres couvrent la terre. Mais nous pensons encore que lorsque tu conduisais ton peuple, Moïse les a fait sortir de l'Égypte, les conduisant à la terre promise. Et tout au long du voyage, pendant 40 ans, et quand ils sont entrés dans la terre promise, il n'y avait aucune personne faible parmi eux. Combien de médecins ce soir voudraient examiner l'ordonnance de Moïse qui a maintenu ces gens en bonne santé pendant 40 longues années? Et pourtant, tu ne l'as pas caché. Tu nous l'as fait connaître à tous. Et c'est écrit ici sur les pages, si simple. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Puissions-nous réaliser ce soir, Seigneur, les malades et ceux dans le besoin. Et savoir qu'il n'y a pas de maladie dont tu n'es pas le remède, la double cure. Bénis la parole de la lecture de ta parole et puisse nos cœurs arrivent maintenant au cerier de la réunion, de nos cœurs remplis de joie par les chants de l'Évangile, les témoignages, ainsi de suite. Nous sommes si reconnaissants. Maintenant, puissions-nous écouter ta parole. Parle-nous, Père, et bénis ces quelques notes qui ont été préparées pour la soirée, car nous les demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Il y a beaucoup de gens qui, en venant au service, aiment toujours noter ce qu'un ministre a à dire et à lire dans les Écritures. Et si vous faites cela, je veux que vous preniez avec moi ce soir pour une petite lecture dans le livre de l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 15, du verset 21 à 28. Je vais lire ceci. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient et lui dirent avec intensité, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, aide, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Si je peux donner un titre à cela, j'aimerais parler un instant, ou plutôt quelques minutes, sur le sujet de la persévérance. J'ai pensé, étant donné que Mme McPherson et l'Église ont toujours défendu avec tant de courage la guérison divine, et nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile sans prêcher la guérison divine, parce qu'elle fait partie de l'évangile. Je me souviens quand j'étais petit, après avoir lu un article dans les revues, et Life or Look, j'étais juste un jeune garçon. Il dénigrait M. McPherson parce qu'elle prêchait, Mme McPherson, parce qu'elle prêchait la guérison divine. Et il disait qu'il y avait un truc qu'elle faisait. Il disait, les femmes qui avaient des goitres, elles mettaient une aiguille sous son doigt et les femmes mettaient un ballon sous leur vêtement. Ensuite, Mme McPherson imposait les mains à la femme, enfonçait l'aiguille dans le ballon et le ballon se dégonflait. J'étais pécheur. Mais j'avais plus de bon sens que ça, de penser une telle chose. Si l'aiguille perçait le ballon, il éclaterait. Alors j'ai dit, aucun doute que cette femme ait été persécutée. Et puis, depuis que je suis devenu ouvrier dans la vigne, je me rends compte de ce qu'elle a dû supporter. En défendant les vérités, vous êtes toujours détesté de l'ennemi. Le mot persévérant signifie être, je pense selon Webster, être persistant. Être persévérant. Persistant dans l'accomplissement d'un but. Et chaque personne sur terre, ou qui a déjà été sur terre, qui a accompli quoi que ce soit, avait, pour arriver à quelque chose, avait dû être persévérant. Vous devez premièrement être certain de savoir ce dans quoi votre foi est ancrée. Or, la foi n'est pas simplement une chose qui flotte si facilement dans les airs, et une sorte, comme on le dirait dans une expression de la rue, un tour de passe-passe. La foi ne peut pas avoir sa juste position que lorsqu'elle est placée sur quelque chose d'inébranlable. Si je vous disais de sortir et de mettre la main sur cet arbre pour être guéri, vous pourriez en douter. Bon, pourquoi? On n'a aucun antécédent de rien. Vous n'auriez que ma parole. Et si je vous disais que vous lavez dans une certaine eau ici dans la vallée, vous apporterez la guérison. Cela dépendrait du degré de confiance que vous avez en moi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Entendre quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi, si ceci est la parole de Dieu et elle est, ce qu'elle enseigne, nous pouvons nous reposer sur cela. Dieu ne peut pas changer. Dieu doit pour toujours demeurer Dieu. Sa parole doit être aussi vraie dans cet âge-ci qu'elle a toujours été à n'importe quel âge. Maintenant, nous sommes limités. Nous pouvons dire quelque chose cette année, peut-être même que demain, nous serons obligés de le modifier parce qu'on n'est pas trop certain, parce qu'on est limité, on ne fait que présumer. Et présumer signifie s'aventurer sans autorité. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. Il n'a pas à le modifier. Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il était fort en rendant gloire à Dieu parce qu'il savait qu'il était capable d'accomplir ou de garder ou de faire ce qu'il avait promis. Ensuite, si jamais Dieu est appelé sur la scène pour une décision, et la décision que Dieu prend, d'abord, elle doit pour toujours demeurer la même. Elle ne pourra jamais changer. Elle ne peut pas être altérée parce qu'il est infini. Et tout ce qui est infini n'a jamais eu de commencement ni de fin. Ainsi, il ne peut donc pas revenir en arrière l'année suivante et dire « j'avais tort ». Et puis, si c'était sa décision, alors tout homme qui fait la même chose, qui vient à cette même décision que Dieu a prise pour cet homme, sur la base de sa foi qui y croit, il doit répondre de la même façon chaque fois qu'un homme y croit. Dieu doit agir à chaque fois comme il a fait la première fois, sinon il a mal agi la première fois. Et qui peut accuser Dieu de mal agir? Dieu doit toujours demeurer avec sa décision. Si tu peux croire, maintenant, pour accomplir quelque chose, vous devez vous fixer un but et dire, je crois ceci, et vous y attacher, continuer à y travailler, en vous en rapprochant. Sachant que vous avez, que c'est là, sachant qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'entendre. Comme il a été dit du petit garçon avec le cerf-volant, tenant la corde dans sa main, il a dit, l'homme l'a dit, qu'est-ce que tu tiens, fiston? Il a dit, mon cerf-volant. Il a dit, je ne vois rien d'autre qu'une ficelle. Il a dit, mais au fond, il y a un cerf-volant. L'homme a levé les yeux et a dit, je ne vois pas le cerf-volant. Il dit, le garçon dit, moi non plus. Alors il dit, alors comment sais-tu que tu as un cerf-volant? Il a dit, je peux le sentir tirer tout au bout. Eh bien, c'est ainsi qu'est la foi. La foi est la substance de choses qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Tant que vous y mettez votre foi et que vous y jetez l'ancre, vous y arriverez. Peu importe ce que vous puissiez ou pas le voir, vous savez ce que c'est la dette, c'est là de toute façon. Vous le tirez et ça vous tire. Et tout homme qui a déjà fait quelque chose qui vaille la peine de se fixer un but, puis se montrer persévérant pour y arriver. De grands hommes, George Washington est appelé le père de notre nation. Lorsqu'il vint à Valley Forge, après avoir passé toute la nuit en prière, et qu'il soit trempé par la neige jusqu'au-dessus des anges, à genoux dans la neige, le lendemain matin, il a traversé le Delaware, plein de glace. Pourquoi? Il était persévérant. Il avait la réponse. Rien n'allait se mettre à travers de son chemin. Bien que trois ou quatre balles de mousquet aient traversé son manteau, cela n'a jamais touché. Il voulait accomplir quelque chose. Et il avait prié avec ferveur tout pour cela. Et il était persévérant. Rien ne l'en a empêché. Pourriez-vous imaginer Noé à son époque? Combien Noé était persévérant? Oh, il n'était qu'un fermier. Et peut-être qu'il vivait dans un jour de recherche scientifique plus avancé que nous aujourd'hui, parce que qu'en ces temps-là, ils ont construit des pyramides. Et si l'un d'entre vous a eu le privilège d'aller voir la grande pyramide d'Égypte et de voir le Sphinx et ainsi de suite, eh bien, c'est étonnant de voir comment ont-ils réussi à faire monter ces rochers-là d'une hauteur d'un paquet de maisons. Ils pensaient des milliers de tonnes. Aujourd'hui, on ne pourrait pas reproduire cela. Nous ne comprenons pas. Ils avaient quelque chose. Ils avaient une teinture. Ils avaient quelque chose avec lequel ils pouvaient embaumer un corps qui lui donnait un aspect naturel surprenant pour le milieu d'années. Nous n'avons pas ces armes, ces mélanges de couleurs ainsi de suite qu'ils avaient un grand âge scientifique. Mais un jour, pendant que Noé était dans les champs, peut-être en train de préparer sa récolte, Dieu lui est apparu et lui a dit, « Prépare-toi à sauver ta maison et construis une arche. » Il va pleuvoir. Et or, nous savons tous que le monde il n'avait jamais plu. Et bon, ça ne concordait pas avec les penseurs scientifiques de l'époque. Son message était contraire. Sans doute que les scientifiques intelligents ont pu venir le voir et lui dire, « Bon, regarde, Monsieur Noé, ici, on a des instruments qu'on peut envoyer sur la Lune et on peut faire toutes ces recherches scientifiques et il n'y a pas d'eau là-haut. Et comment l'eau pourrait-elle descendre de là alors qu'il n'y a pas d'eau là-haut? Tu es fou. Tu fais quelque chose qui ne sert à rien. Il n'y a pas d'eau là-haut. Mais Noé pouvait dire, Dieu a dit qu'il pleuvrait et ça règle la question. Dieu l'a dit. 120 ans plus tard, il était persistant face au monde scientifique de son époque. Proclamant toujours que son message était juste parce qu'il venait de Dieu. Il avait un but à atteindre. Il avait un message à proclamer. Et il a persisté à le faire. Peu importe ce que le monde du monde disait, Noé avait entendu. Dieu c'est tout ce qui comptait pour lui. Il avait entendu la voix, il était sûr que c'était Dieu et il préparait quelque chose qui semblait très stupide pour le monde. Mais quand même, Noé savait que Dieu allait garder sa parole. Ça ne devrait-il pas être une leçon pour nous aujourd'hui, à cette heure? Comme Jésus l'a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Un message stupide aux yeux du monde, ils ne le comprennent pas, mais ceux qui ont contacté le Saint-Esprit savent qu'il va revenir. Je peux voir les gens comme ils avaient pitié du pauvre vieux, à quel point il manquait d'avoir du plaisir du monde et des choses qui se passent. Mais Noé, toujours persistant, a tenu bon. Un jour, Dieu a dit à Noé, « Très bien, tu as fait ta part ici. Maintenant, entre dans l'arche, toi et ta famille. » Et il a remarqué que les oiseaux ont commencé à voler, les animaux commencèrent à entrer, et deux par deux, Dieu et sa famille entrèrent. Et il y a toujours des croyants frontaliers, je les appelle ainsi, des gens qui vont venir à l'église, ils vont apprécier un message du cœur et des chanteurs du ministre ou un témoignage, ils vont aimer ça, mais pour entrer et en faire partie, ils ne le feront pas. Ils aiment écouter, mais ils n'en feront pas partie. Ils ne veulent pas être identifiés. Ils veulent rester à l'écart. Cela a toujours été, et aucun doute que c'était le cas à ce jour-là. Et quand la porte de l'arche fut fermée, beaucoup de ces gens avaient dit, « Eh bien, montons et restons là aux alentours. » S'il arrivait que, par exemple, le vieillard avait raison, nous pensions tous que le vieux était un peu à côté de la traque, mais j'aimais bien l'écouter prêcher debout là-bas dans la porte. Et maintenant, nous savons que quelque chose a fermé cette porte. Mais c'était un vieux bovien. Si jamais cela produisait que de l'eau descende de là-haut, bien, il nous prendra. Vous voyez, vous ne voulez pas faire confiance. Vous ne voulez pas étirer la bonté de Dieu. Vous voulez être certain d'entrer pendant que vous en avez besoin. Vous en avez l'occasion. Oh, la première chose qu'on a su, la première chose, regardez comment Dieu met l'attention sur son peuple. J'imagine que le premier jour, Noé a dit à sa famille, très bien, nous allons monter à l'étape. À l'étage, car demain matin, le ciel sera sombre et il n'y aura jamais eu de nuit avant. On n'avait jamais vu ça. La pluie va tomber, les éclairs vont balayer le ciel. Et le lendemain matin, voici le soleil qui s'élève. Aucun signe, toute la journée, Noé et sa famille ont observé. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme d'habitude. Et j'imagine que les croyants font le dire, ah, les vieux hommes avaient tort. Ils sont retournés en ville manger, boire et s'amuser. J'imagine sa famille. Quelle tension horrible c'était pour cet homme. Mais il n'a pas abandonné, n'a pas commencé à frapper à la porte en disant, les amis, forcez la porte, j'avais tort. Pourquoi? Il savait qu'il avait la vérité. Il s'y est accroché. S'il ne pleuvait pas aujourd'hui, il pleuvra demain. C'est ça. Très bien. Très bien. Et puis le second jour est venu. Et nous remarquons que le soleil s'est levé et il a suivi son corps. Son cours, comme tous les jours, aucun signe de pluie. Mais il restait persistant. Au bout de 7 jours, Noé était assis là disant, s'il ne pleut pas aujourd'hui, il pleuvra demain. Vous voyez, il était ancré. Il était persistant. Persévérant parce qu'il savait que Dieu l'avait dit et qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Ainsi, le septième jour, quand il a regardé par la fenêtre, le ciel s'obscurcissait, les vents soufflaient dans les collines, les arbres penchaient, les gens criaient, ne sachant pas quoi faire, et après un certain temps, de grosses gouttes d'eau de pluie ont commencé à tomber pour la première fois, se déversant sur les rues, les égouts se sont remplis, tous les ruisseaux sont sortis de leur lit. L'eau a commencé à monter, les gens montaient dans le bureau et ils ont coulé, le vent était violent et il faisait que monter. Après un certain temps, elle a commencé à monter jusqu'au navire et il regardait par la fenêtre. Enfin, les gens criaient, mais il n'y avait aucun moyen pour lui de les atteindre, de les faire entrer. Il était à l'étage supérieur, il avait rejeté leur jour de grâce, il n'y avait plus d'espoir pour eux. Il était trop tard. Finalement, quel sentiment cela a dû être pour Noé? Quand il regardait dans la rue et voyait tous les petits bateaux qu'ils étaient construits par Dieu ou non. Vous voyez, les gens pensent aujourd'hui, c'est là aujourd'hui, ils peuvent construire leur propre arche. Ils peuvent fabriquer leur propre salut. Ce n'est pas possible. Dieu a conclu le salut pour nous. Et nous devons le faire. Une simple arche construite par l'homme ne tiendra pas le coup. Tout ce que l'homme peut construire qui est contraire à la volonté et à la parole de Dieu ne tiendra pas le coup. Mais qu'est-ce que ça a dû être quand Madame Noé et ses belles filles et son fils et ses fils ainsi de suite quand ils ont vu cette eau monter sur l'arche et que l'arche restait là stable. Mais au bout d'un moment, ils étaient sentis, elle flottait. Noé savait que de tout ce qu'il avait essayé d'accomplir, ce qu'il avait fait, son message payait alors. Il a été déchargé, il quittait la terre. Comme lorsqu'un homme voudra rester, pas venir serrer la main du passé, mettre son nom sur un livre, mais rester là jusqu'à ce qu'il sente quelque chose se détache en lui et qu'il commence à flotter par la foi, sachant que ses péchés sont passés, qu'il est en crainte et que... Et qu'il est ancré son âme en Christ et que quelque chose... le feu montait encore et encore, persistant, persévérant.
Moïse
fut très persévérant. Après être descendu en Égypte et qu'il eut tué un homme avec toute son éducation et sa formation, et pourtant il a mal dirigé les choses, il a essayé parce qu'il avait confiance en ce qu'il pouvait accomplir avec sa formation par lui-même. On nous dit que c'était un militaire et que c'est pourquoi il avait été formé. Nous découvrons que cela a échoué. Et quand ça a échoué, il n'a pas été persévérant. Il s'est sauvé dans le désert pendant 40 ans. Mais à un moment donné, il a rencontré Dieu dans un buisson. Il a ôté ses souliers et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu un bâton se transformer en serpent et devenir un bâton. Il a vu une main lépreuse être guérie par la puissance de Dieu. Et il a entendu la voix de Dieu lui parler. Rien n'allait l'arrêter alors. Je l'ai toujours décrit, j'espère que ce n'est pas d'une façon sacrilège. Un vieil homme âgé de 80 avec 5000 à d'autres, avec un jeune sur la hanche, et le lendemain, la barbe pendante, le bâton à la main, il part les yeux levés vers le ciel avec une barbe blanche, bâton vert, et quelqu'un dit: où vas-tu, Moïse? Je descends en Égypte pour prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme. Ça a l'air ridicule, mais les voies de Dieu sont ridicules pour l'esprit charnel. Mais elles sont précieuses pour ceux qui y sont ancrés. Ils savent de quoi ils parlent. Ils continuent à s'empresser. Oh, quelle chose ça a dû être. Noé, Moïse plutôt, descendant en Égypte, une nation dont le monde avait peur. Comme la Russie aujourd'hui, une invasion par un homme seul, un vieil homme de 80 ans avec sa femme sur une mule, un bâton tordu à la main, descendant pour prendre le contrôle. Ce qu'il y a d'étrange dans tout ça, c'est qu'il fait, il l'a fait. Il a pris le contrôle. Dieu n'a besoin qu'un seul homme, une seule personne quelque part, qui soit attaché à lui. Quelqu'un qui sait où il se tient et qui est persévérant. Les persécutions, alors, la différence ne le dérange pas du tout. Il est descendu pour prendre le contrôle et il l'a fait. Ça paraissait très ridicule lorsqu'un homme de 14 pieds ou plus que se tenait là, je crois ses doigts 14 pouces de long, avec une lance à la main comme une vieille, une aiguille de tisserand, probablement long comme la moitié d'ici jusqu'à la porte, là, se tenant là, défiant Israël. Il y avait Saul de l'autre côté, dont la tête et les autres épaules dépassées, son armée, un homme entraîné, tous bien entraînés, couverts d'armure. C'est vrai. Et le diable voulait leur faire des propositions. C'est ce que fait le diable quand il pense qu'il a le meilleur côté. Viens ici, ne versons pas le sang. Juste deux d'entre vous, si je bats votre homme, alors vous nous servirez. S'il me tient, alors il n'y aura qu'un qui mourra au lieu de nos armées. Quelle proposition il peut faire? Tout le monde était mort de peur. Et ça paraissait ridicule de voir un petit gars aux épaules voûtées arriver avec une petite peau de mouton autour de lui, une fronde attachée sur le côté avec des gâteaux aux raisins dans sa main, pour voir ce frère. Et ce démon s'est vanté devant un homme de Dieu une fois. Il a rappelé à l'ordre. Pourquoi? Il savait qui était Dieu. Et vous voulez me dire que les armées de Dieu vivant laissent les armées de ces Philistins ainsi circoncidifier les armées, l'armée du Dieu vivant? Moi, j'irai les combattre. Oh là là, pourquoi? Il était persistant. Ses frères ont dit: nous savons que tu n'es qu'un polisson. Rentre à la maison avec ces moutons que papa t'a dit de garder. Tu ne viens ainsi que pour voir la bataille. On ne peut pas contredire un homme de Dieu quand quelque chose lui est révélé. Et il est allé voir Saoul. Saoul, j'imagine, s'est gratté la tête et a fixé les soins. Il a dit: j'admire ton courage, Fiston, mais cet homme est un guerrier. Cet homme est un guerrier depuis sa jeunesse. Tu n'es qu'un jeune homme et tu ne connais rien d'une fronde, d'une lance ou d'un duel. Oh, regardez leur étaler quelque chose. Ton serviteur regardait le mouton de son père. Et il a dit, un jour, un ours est venu et a pris un agneau de mon père. Et je l'ai poursuivi. Et je l'ai tué. Puis un lion est venu et en a pris un autre et l'a amené. Et je l'ai poursuivi et je l'ai tué. Maintenant, dit-il, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion, combien plus me donnera-t-il la victoire sur ces Philistins circoncis qui défient l'armée du Dieu vivant? Saul a dit, mais tu n'es qu'un enfant. Il a dit, mais tu n'as rien sur toi qu'une petite peau de mouton. Attends, je vais te mettre mon armée. Ainsi, il est pris et lui mit son armée. Pouvez-vous imaginer cela? La Bible dit qu'il avait le teint rosé, un tout petit, peut-être un petit, un homme de 100 livres, revêtant une grande armée d'hommes qui en pesait environ 250, à peu près de 7 pieds. Il était tout écrasé. Pouvez-vous imaginer ça? David regarde autour de lui les épaules à peu près ça, des trop grandes, et ça ressemblait à une jupe sur lui qui pendait comme ça. Son plâtron, il a découvert que la veste ecclésiastique ne convenait pas à un homme de Dieu. Il a dit, enlevez-moi cette chose. Je ne connais rien de ça. Mais laissez-moi y aller avec ce que je sais être juste. Voilà. Il est allé avec la puissance de l'esprit. Je crois que c'est Hudson Taylor qui a dit un jour à un missionnaire chinois, ce garçon chinois a dit, « Monsieur Taylor, j'ai senti mon appel en Christ. » Il a dit, « Dois-je aller étudier pour obtenir mon baccalauréat en art, puis mon doctorat et tout ce que j'ai besoin, c'est mon diplôme de docteur. » Monsieur Taylor a dit, « Vas-y maintenant, fiston, vas-y maintenant. N'attends pas que ce moment arrive. Tu vas gaspiller une trop grosse partie de ta vie. » Je pense que c'est juste, je suis d'accord avec M. Taylor. Va maintenant! Je n'essaie pas de soutenir mon ignorance en disant que nous n'avons pas besoin d'instruction. Ça pourrait avoir sa place, mais l'instruction sans salut n'a pas d'encre. Il n'y a que de voile et pas d'encre. Va tandis que la bougie est allumée. N'attends pas que cela soit à moitié consumé. Allez-y quand même. Si vous ne savez rien de plus que la façon dont elle a été allumée, dites aux autres comment elle a été allumée. Peut-être que l'heure fera allumer. Dès que la bougie est allumée, allez dire à tout le monde comment votre bougie est allumée. Remarquez, David était persistant parce qu'il savait. Samson, un jour, était surpris dans un champ par 1000 Philistins autour de lui. Et il a regardé tout autour de lui. Et ce n'était pas un homme entraîné qui savait comment se battre en duel. Mais quand il a tourné la tête, il a senti cette alliance, cette tresse qui était ses épaules. C'est tout ce qu'il devait sentir. Il a pris la première chose dans sa main, une mâchoire de millet. Et il a bâti un millier de Philistins. Pourquoi? Il était persistant. Parce qu'il savait que Dieu avait fait une alliance avec lui par ses sept tresses. Tant qu'ils étaient suspendus à leur place, rien n'allait l'affecter. Oh, frères et sœurs, combien l'Église du Dieu vivant devrait se tenir ce soir avec persistance. Tant que nous pouvons sentir l'alliance du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Nous ne devrions jamais rien laisser nous faire obstacle. Persistant. Certainement.
Jean,
le grand prophète dont on disait qu'il allait paraître quand il était dans le désert, c'est Dieu qui lui a dit, ils attendaient un Messie, bien sûr, 400 ans avant d'avoir eu un prophète. Mais Dieu lui a dit dans le désert, il a dit, maintenant, ils vont essayer de te dire que docteur un tel, celui le type qui devait être le Messie, si tu devais l'annoncer, eh bien, c'est la meilleure personne de notre assemblée. Et ils diront, eh bien, le petit-fils du souverain sacrificateur ici à l'avant, c'est lui qui devrait l'avoir, ainsi de suite. Mais écoute, Jean, c'est un vrai travail. Tu dois être sûr, alors je vais te donner un signe. Sur celui sur lequel tu verras, sur qui tu verras l'esprit descendre et y demeurer, ce sera lui qui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean s'éteignait là, il surveillait les assemblées qui venaient, tout le monde arrivait par-ci, par-là, d'ailleurs, mais il ne pouvait pas le voir. Un jour, alors qu'il était debout à discuter avec le prêtre, il lui dit, « Voulez-vous dire que le temps viendra où le sacrifice sera enlevé ?» Il a dit, « Un homme viendra !» Et voilà, il prit la regarde, voilà, ça y est, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde !» Il le savait. Parce que Dieu lui a dit que c'est celui sur qui tu verras descendre de l'esprit. Il savait, il était persistant. Revenons à cette petite femme. Il y a tellement de choses que nous pourrions dire à propos des différentes personnes qui ont été persévérantes, persistantes, qui ont tenu bon pour se rendre jusqu'au bout. J'avais un petit slogan que je répète pas mal souvent, ce serait une bonne chose que vous enseigniez. Le gagnant ne lâche jamais et le lâcheur ne peut gagner. Pensez-y, réfléchissez-y. Le gagnant ne lâche jamais et le lâcheur ne peut gagner. Vous devez tenir bon. Et avant même de commencer, soyez absolument certain d'avoir raison. Puis soyez persistant, ne laissez rien vous ébranler. Ne vous arrêtez pas. J'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là, vous le savez. Il y a une chose que je sais, quand on est absolument certain d'être dans la volonté de Dieu, quand on est absolument certain d'être centré sur le calvaire, rien ne va vous ébranler. Vous y êtes. Cette petite femme, c'était une grecque, une syrophénicienne. Et elle avait entendu parler de la renommée de Jésus. Eh bien, comment la foi vient-elle en entendant la parole, en écoutant la parole de Dieu. Et elle avait entendu parler de lui. Et vous savez, elle a peut-être eu beaucoup de choses qui l'ont gênée parce qu'elle est grecque et la foi vient de ce qu'on entend. Et nous le savons, elle avait beaucoup, beaucoup de choses qui lui faisaient obstacle. Cependant, la foi trouve une source dont les autres ne savent rien. La foi trouve cette source. Que personne n'arrive à expliquer. C'est quelque chose que vous savez. Les autres ne peuvent pas le voir. Mais la foi le voit. La foi le voit là où l'œil naturel ne peut pas voir. Mais l'œil intérieur voit la chose. Or, elle avait besoin de Jésus. Elle en avait besoin. La première chose que vous avez fait, si vous voulez trouver Christ, vous devez savoir que vous avez besoin de lui. Quand vous croyez que vous n'avez tout simplement pas besoin de lui, alors vous ne le trouverez jamais parce que vous ne le chercherez pas diligemment. Avez-vous remarqué ce passage de l'Écriture où il est écrit « Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». En effet, ce n'est pas du tout de frapper comme ceci et l'on vous ouvrira. Il ne suffit pas que celui-ci réponde « Eh bien, je suis sorti, Seigneur, mais voici, tu me veux ». Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui cherche, c'est lui qui frappe continuellement. Ça doit concorder avec le reste des Écritures. C'est comme le juge injuste avec la veuve. Elle frappait constamment à sa porte. Elle était persévérante. S'il l'a envoyé aujourd'hui demain, il l'avait sur le bras. C'est de cette manière que vous voulez obtenir des choses de Dieu. Soyez sur le bras chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps, constamment. N'arrêtez pas de chercher. Continuez à demander. Continuez de frapper. Ne frappez pas juste un petit moment pour devenir fatigué. Vous en allez. Restez simplement là. Seigneur, je suis ici. Je ne veux pas partir. Je suis entre tes mains maintenant. Je veux rester ici. Est-ce que tu es fatigué de m'écouter? Je passe des moments merveilleux à frapper parce que je sais que tu viens. Amen. C'est là qu'il se passe quelque chose. Il doit vous enlever de ses mains, vous voyez? Alors, il arrive pour vous répondre. Or, la foi trouve ceci. Sa parole est une épée. La Bible dit dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est une épée qui n'est pas de tranchant. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui puisse tenir cette épée, c'est la main de la foi. La main de la foi est la seule chose qui peut maintenir cette épée de la foi. L'épée de la parole. Maintenant, peut-être que cette pauvre, que votre bras est faible, mais juste assez pour saisir. Mais cette épée de la parole va libérer toutes les promesses de Dieu que Dieu a faite. A connu que je sois un bras de la foi bien fort qui tient cela. Je crois en Dieu pour ma guérison. Je crois en Dieu pour mon baptême. Dieu a fait la promesse et la foi tient cette épée. Elle la découvre pour extraire la verset du feu là-bas. Chaque promesse de Dieu peut être libérée par la parole de Dieu. Car c'est une épée. Elle avait beaucoup d'obstacles, mais sa foi n'en avait aucun. Vous pourriez en avoir un tel empêchement d'un obstacle que chaque personne qui prend le pas pour aller à la rencontre de Christ devra dire qu'il y a un tas d'obstacles. La foi n'a pas d'empêchement. La foi a des poils sur la poitrine et de beaux gros muscles. Les raisonnements, c'est là pour dire, tu sais, c'est raisonnable. La foi tire ses muscles vers l'arrière, bombe le torse et dit, tais-toi, assieds-toi. Et la raison se retrouve tout droit au coin, prend la place sur son tabouret. C'est vrai, la foi a des muscles. Et il veut dire ce qu'il veut, ce qu'il dit. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. C'est ce dont l'église Foursquare a besoin. C'est ce dont le groupe Pentecôte a besoin. C'est ce dont le monde a besoin. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Et nous devrions avoir honte de l'admettre que nous avons besoin d'une foi qui va soutenir la parole de Dieu. Déclarer qu'elle est vraie. Affronter la Bible et dire, ainsi dit le Seigneur. L'autre jour, je lisais qu'un homme avait dit que la Bible s'était retrouvée devant lui. Il a dit, ce n'était qu'un vieux petit diable. Il a dit, bouh. Et il a dit, je reculais brusquement en arrière. Il a dit, bouh. Et je reculais brusquement en arrière. Chaque fois qu'il dit bouh, et je reculais, il devenait plus grand et je devenais plus petit. Et il a dit, il n'arrêtait pas de dire bouh. Et je répétissais chaque fois que je reculais et lui devenait plus grand. Et je dis, et j'ai regardé autour et j'ai dit, quand j'ai trouvé la parole, il a dit, je l'ai reculé quand il a dit boue, et moi j'ai dit boue en retour. Et quand j'ai dit ça boue en retour, chaque fois que j'ai dit boue, et il est devenu de plus en plus petit et moi de plus en plus grand. C'est ça, vous devez le combattre tout ou tard. Vous savez, les gens ne croient pas qu'il y a un diable. Je le croise tout le temps, oui. Je le croise tous les jours, tous les autres croyants aussi. Il n'y a qu'une chose dont il a peur, c'est ce sang, cette parole. C'est la foi qui le tient. C'est fort, ça avance. Maintenant, nous voyons que cette petite femme grecque, comme je l'ai dit, aussi beaucoup d'obstacles, mais sa foi n'en avait pas. La foi n'a pas d'obstacles. Ils lui ont peut-être dit, « Sais-tu que tu es grec? Tu es grec. Tu sais, tu n'appartiens pas à sa dénomination. Ne va pas avec ce groupe. » Maintenant, c'est l'un des obstacles. Ouais. Mais si tu as la foi, tu y vas de toute façon. Cela ne fait aucune différence de quelle dénomination il fait partie, autant qu'il soit là. Elle avait un besoin, elle avait une fille qui s'est mourue de l'épilepsie. Elle devait absolument arriver jusqu'à lui. Parce que les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Ils ne le peuvent toujours pas. Elle devait arriver jusqu'à Jésus. Elle avait entendu qu'il avait guéri ce genre de cas. Elle avait dit, il n'est pas venu avec son réveil personnel. Cela ne l'a pas arrêté. Cette petite femme avait la foi. Elle était persistante. Elle venait tout simplement de dépasser ce groupe. Sa foi l'en a éloigné. Elle pouvait seulement dire, quelqu'un a dit, il y a une réunion, c'est quoi, ce soir? Eh bien, elle n'appartient pas à notre notion. Tu ferais mieux de ne pas. Restez dans ça. Continuez simplement à avancer. Votre foi va vous y conduire, vous voyez. La foi ne connaît aucun obstacle. Elle avance de toute façon. Rien ne peut pas. Oui, monsieur, ils vont la fuir comme la variole. Ils ne font que s'éloigner complètement. Ils n'ont rien à voir. Quand la grande foi s'élève et dit, je sais en qui je crois, je suis persuadé, c'est ça. Il se peut qu'un autre groupe vienne dire, les jours des miracles sont passés. Cela n'existe pas, c'est une bande exaltée là-bas, c'est juif. Nous sommes grecs, nous sommes intelligents, nous sommes un groupe de personnes intelligentes. Nous donnons au monde l'art, la musique, la religion. Et cette chose-là n'existe pas. mais elle était persistante. Les jours des miracles n'étaient pas passés pour elle parce que quelque chose lui avait dit en bas ici, ce n'était pas. Et Jésus avait ce qu'elle cherchait. Elle était déterminée à se rendre ce qu'elle voulait. Peu importe si ce monsieur l'avait parrainé ou non, elle s'y rendait de toute façon. Elle allait se rendre là-bas. Elle était persistante, toujours persistante. Les jours des miracles sont peut-être passés pour elle, mais. Cela n'était pas pour. Et c'est comme ça pour tous les coins. Ces gens disent que le jour. Un homme a dit, il y a quelques temps, il a dit, peu importe ce que vous avez dit, je ne crois pas que la guérison divine existe. J'ai dit, certainement pas pour vous. Ce n'était pas pour les incroyants, c'est pour ceux qui croient, c'est ça. Cela n'a pas été envoyé aux incroyants, cela a été envoyé aux croyants. Vous ne pouvez pas l'apprécier parce que vous n'en savez rien. Et j'ai dit, il voulait me dire, quelle est cette maison? J'ai dit, vous êtes environ 33 ans en retard. Pour ça. Je connais mieux, je l'ai reçu. Ah, dis n'importe quoi. J'ai dit, ah, c'est là peut-être pour vous, mais pas pour moi. C'est vrai pour moi, c'est la vie. C'est réel pour moi. Quelque chose d'ancré. Il est venu trop tard pour me dire cela. Ils sont venus trop tard pour nous parler de la guérison divine. Nous avons déjà été guéris. Nous avons déjà été remplis du Saint-Esprit. Nous avons déjà reçu la grâce de l'enlèvement. Et c'est trop tard pour tout ça. Ils peuvent dire, nous l'avons déjà reçu. Notre foi peut dire, assieds-toi, je crois que je sais de quoi je parle. La foi, ma foi la tient à l'excès. Jésus viens, je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit parce que je le vois vivre dans ma vie. Une révélation manifestée. Une confirmation parfaite de la Bible qui a raison. Et Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Qu'ils peuvent vivre autant qu'ils veulent. Nous serons aussi persévérants qu'ils l'étaient quand Noé était là. Et Moïse était tous les autres imitateurs qui ne se sont levés. J'en ai ces jambes ont jeté leur visage et s'est transformé en serpent. Il y avait ces hommes tout aussi honorables qui pouvaient l'être, qui faisaient exactement ce que Dieu leur avait dit de faire. Et voilà qui vient d'une bande exacte. Ils ont jeté leur verge. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de rester tranquille et de voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu s'y tiendra. Il vous a envoyé pour une éternité. Vous y tiendrez là et Dieu va enlever toutes les imitateurs charnels loin de vous. C'est vrai. Restez là. Vous pouvez être persistant parce que vous savez en qui vous avez cru. Et ce qui est bien, examinez votre révélation avec la parole. Si c'est contraire à la parole, laissez-la tranquille. Si c'est avec la parole, Dieu est lié, obligé de garder sa parole. Maintenant, il y avait peut-être un groupe de dames au coin de la rue, vous savez. Et elles ont dit, la voici qui arrive. Maintenant, elle a cet enfant là-bas qui a de l'épilepsie. Et docteur Antel a dit qu'il y a des remèdes dans les pieds. Et là, voilà qui vient vers cette dénomination inconnue là-bas pour que ce prophète vienne guérir son enfant. Alors, elles ont dit, on devrait arrêter Susie. Et j'espère qu'il y a des... Mais on devrait arrêter Susie et lui dire parce que c'est une femme bien. Il n'y a rien de mal dans sa vie. Mais nous devons l'arrêter. La seule chose que je sais faire, elle est passée à côté de tout le monde. Elle est franchie. Tu sais quoi? Susie, ton mari va te quitter parce que c'est un administrateur ou un diacre dans le conseil. Il va te quitter, c'est sûr. Tu vas être là-bas. Elle était restée persistante. Elle a continué à avancer. Vous voyez, la foi ne connaît aucun obstacle. Elle doit y arriver. Elle est passée devant un autre groupe et elle a dit, tu sais quoi, quand tu vas revenir vaincu et que tu vas découvrir qu'il n'y a rien là-dedans, tout le monde dans le quartier va se moquer de toi. Cela n'a même pas fait rougir ses oreilles. Elle était persistante. Elle a continué. J'aime cela. J'aime cette persistance. Alors voilà qui est là-bas, un de ses diacres lui a dit, tu vas là-bas et tu sais ce qu'ils vont faire. Ils vont t'expulser de l'église parce que tu t'es associé à ces athées ou ces gens-là. Il a dit, tu sais, excusez-moi, je n'aurais pas pu répondre ici. Ouais, tu t'associes avec eux, tu vas te faire expulser de ton église. Elle était restée persistante. La foi ne connaît pas la défaite. Elle n'avait qu'une chose à faire, c'était de parvenir à Jésus. Elle avait un besoin et c'était la seule qui devait le. Je vous le dis ce soir, frère et soeur, j'ai 53 ans. Je le sers depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et il a répondu à tous mes besoins. Quand viendra l'heure de ma mort, je suis sûr que ce dont j'aurai besoin à ce moment-là, 2 heures pour traverser la rivière, il sera là. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il sera là. Je vais juste remettre la vieille épée dans le fourreau et enlever le casque qui est déposé sur elle. Et les rives, quand j'entendrai le vieux et je crierai, envoyez le canot de sauvetage. Je rentre à la maison ce matin. Ce sera là, oui, monsieur. L'étoile du matin va éclairer le chemin. Nous irons de l'autre côté à la rivière. Oui, monsieur. Amen. Elle était persévérante, elle avait une mission. Elle savait qu'elle devait être persévérante pour arriver jusqu'à Jésus. Alors, elle devait tout arriver. Finalement, elle y est arrivée. Maintenant, enfin, je suis arrivé. Tout va bien maintenant. Et voilà qui vient un nouvel obstacle. L'homme en qui elle professait avoir confiance, l'homme qu'elle essayait d'atteindre, Jésus, il a dit, « Je ne suis pas envoyé à ta race. » Oh là là, n'est-ce pas que cela nous ferait exploser, nous les pentecôtistes? Oh là là, je ne suis pas envoyé à ta race. C'était un choc. Mais vous savez quoi? La foi ne connaît pas de choc. Et puis de nouveau, il se retourne après toutes ces choses qu'elle avait traversées, sa foi qui tenait bon et qu'elle savait que Jésus pouvait lui donner son désir. Elle a franchi tous ces obstacles. Quand elle est arrivée à lui, elle a été rejetée d'un trait. Je ne suis même pas envoyée à ta race. Je peux l'imaginer debout là, les yeux brillants. Elle était devant lui à ce moment-là, c'est tout ce qu'elle devait être. Elle a dit, de plus, ta race n'est pas rien d'autre qu'une bande de chiens. Oh là là. Et si vous avez dit cela, vous savez, je vais prendre mes papiers, le Foursquare et aller ailleurs. Je n'y retournerai plus jamais là. Je vais le prendre d'un tel. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais quand même, elle a tenu le coup. Et voyez, la foi ne connaît pas. Rien n'allait l'arrêter. Malgré Jésus, que Jésus lui ait dit, c'est lui, la même à qui elle est venue, je ne suis pas envoyé à terre, c'est que ce ne sont rien d'autre que des chiens. Mais qu'en est-il? Et ça s'accrochait avec une vraie foi. La foi ne connaît pas la défaite, peu importe d'où elle vient. Elle ne connaît pas la défaite. Parce qu'elle avait la foi. Elle a quand même tenu le coup. Oh, j'aime ça. Elle n'était pas une plante de serre chaude, une hybride, comme certaines d'entre elles aujourd'hui. Cette religion hybride que nous avons aujourd'hui, vous savez. Elles ne sont pas bonnes à rien. Tout est hybride maintenant, hybride. Même elles ont des églises hybrides, des chrétiens hybrides, qui se sont joints par une épée de main. Et ils peuvent s'habiller mieux, peut-être utiliser une meilleure anglais et ainsi de suite comme ça. Vous prenez un gros petit de maïs hybride, peut-être deux fois plus que joli que ça. Plantez là, il va mourir. Il n'y a pas de vie dedans, c'est vrai? Nous ne voulons rien d'hybride, nous voulons la chose authentique. Si vous ne l'avez pas, restez là jusqu'à ce qu'elle vienne. Pourquoi accepter un soutien alors que les cieux de la Pentecôte sont remplis du vrai? Vous voyez, rien d'hybride, ça ne tiendra pas. Il faut toujours vaporiser une plante hybride pour garder les insectes. C'est le cas de certains de ces chrétiens hybrides. Vous devez les dorloter, les caresser, leur permettre qu'ils seront diacres ou quelque chose d'autre, garder les insectes de la mondanité loin de l'incrédulité. Ils partiraient de l'église, mettez-les dehors de toutes les façons. C'est vrai, ils ne sont jamais entrés. Vous ne pouvez pas adhérer à une église. Vous pourriez vous joindre à une loge. Vous pouvez joindre la loge méthodiste, la loge baptiste ou la loge pentecôtiste. Mais si jamais vous venez à Christ, vous allez naître dans l'église. C'est vrai, le corps mystique de Christ. Les autres sont des loges, c'est vrai. C'est bon, rien contre. Mais vous êtes né dans l'église du Dieu vivant, par l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas y vivre et joindre tout de suite. Et quand vous y êtes né là-dedans, vous avez une naissance. Vous n'êtes plus un brûlé, un soeur, demain, ou un autre stopper. Oui, vous savez, un autre stopper qui touche. C'est la façon de faire. Je suis un tel. Non, non, c'est ça, c'est tout ça. Elle était persévérante. Ce n'était pas une hybride. Vous n'aviez pas besoin. Mais elle se tenait là. Une partie de notre récolte aujourd'hui, trop d'entre eux sont des hybrides. Quelque chose comme David Duplessis, je crois qu'il a dit un jour, Dieu n'a pas de petits-enfants. Le problème avec notre mouvement pentecôtiste, nous avons des petits-enfants pentecôtistes. Ils entrent ici parce que notre père et nos pères étaient des pentecôtistes. Nous ne les écrivons sur les registres de ça. Et ils grandissent sans exception. Et là, ils disent qu'ils sont des pentecôtistes, eux aussi. Non, monsieur. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'est pas grand-père. Il est père. C'est vrai. Si jamais vous allez au ciel, vous allez payer le prix comme votre père, mère. et votre Père l'ont fait. Amen. Ça peut paraître tranchant, mais c'est la vérité. C'est une façon tranchante de faire valoir. Mais vous comprenez ce genre d'anglais, j'en suis sûr. Ce n'est pas un très bon anglais. Ça atteint le but, c'est ce que j'essaie de dire. Ne faites que l'écouter. Elle n'était pas une hybride, elle avait besoin d'être votre professeur. Elle disait, eh bien maintenant ma chère, je te le dis. Non, 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 non. Et quoi qu'il arrive, elle dit, c'est la vérité, nous ne sommes qu'une bande de... C'est vrai que nous n'en sommes pas. Oh là là, elle a admis qu'elle avait raison. Je vais dire une chose bouchée, une grosse bouchée à avaler. Préparez-vous. Chaque fois, la foi authentique va admettre que la parole a raison. N'importe quand, si quelque chose dit que ces jours de miracles sont passés ou quelque chose comme cela, ce n'est pas la foi authentique. La foi va toujours admettre la vérité. Vous devez rester avec la parole. Peu importe ce que quoi que ce soit dit, ce que disent les autres, c'est la parole qui a raison. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne vraie. Celui qui ajoutera ou tranchera celui-là, c'est retrancher sa part du livre de vie. Dieu va juger le monde par une église, lequel est 660 dénominations différentes. Comment vas-tu? Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était fêchée. Et la parole a été fêchée. Elle a été habitée parmi nous. Dieu et la parole sont la même. Ceci est la parole en forme écrite. Vous savez, le Saint-Esprit plante cette semence-là dedans et l'amène à la vie, fait sortir la vie et la manifeste et la confirme Jésus-Christ. Dans Saint Jean 12, c'est lui, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Donc, il admet toujours la vérité. Oh là là. Mais vous savez, elle dit, c'est vrai. Nous ne sommes qu'une bande de chiens. Et nous ne sommes pas, vous n'avez pas vraiment été envoyé pour nous. Mais Seigneur, je ne cherche pas à avoir le pain. Deux enfants, je ne cherche que des miettes. Oh là là. Maintenant, avez-vous remarqué les gens, vous, les amis, ils veulent obtenir ceci. Être guéri, obtenir le Saint-Esprit de la façon dont ils pensent qu'ils devraient l'avoir. Maintenant, je veux venir, frère, si tu nous verras, et ma main dans une pièce où personne ne me verra. Qu'est-ce que tu poses tes mains sur moi et me dis, okay, tu me... je veux l'accepter ou non? Naaman voulait accepter sa guérison comme ça une fois, mais lui, lui a dit d'aller dans le vieux jardin et d'y plonger cette fois. Je peux le voir descendre de son char, un grand homme bouchant son nez, le voilà qui arrive dans l'eau sur la pointe des pieds comme un chat dans la mélasse. Il sautait comme ça, il a dit, oh, il a dit, oh, j'aime ce faire cela. Certaines personnes viennent à l'hôtel comme si c'était une affaire et qu'elles rentrent pour elles. Oh, je ne veux pas faire ça. Et il a plongé une fois, puis il dit, j'ai encore la lèpre. Il a dit, le prophète a dit, sept fois. C'est vrai, jusqu'à ce qu'il obéisse complètement la parole, jusqu'à ce que vous lui obéissez complètement. Il avait un homme de bien debout sur la terre. Il a dit, le prophète a dit sept fois, Père. Vous voyez, continuez à vous plonger. C'est tout. Si vous ne l'avez pas la première fois plongé, vous simplement de nouveau le lendemain. Soit, continuez jusqu'à ce que vous l'avez. Souvenez-vous maintenant, elle était comme Rahab la prostituée, cette petite femme. Elle n'avait jamais vu de miracle. Elle n'avait entendu parler qu'il
n'y avait.
Elle était une femme des nations. Elle n'avait jamais vu. Elle était étendue. Nous avons fait de deux vues. Elle était comme quand les options sont faites. Elle n'a pas dit, je vais vous dire quoi faire. Amenez Josué et laissez-les une réunion pour moi ici. Je verrai comment les coiffer. Mais elle a dit, j'ai entendu dire que le Dieu du ciel était avec vous. Et la seule chose que je demande, c'est d'être épargné. Vous y êtes. Cette petite femme était vraiment personne. Elle a tenu le coup, épargnez-moi, je vais faire tout ce que vous voulez que je fasse. Voilà, c'est tout ça. C'est ça. Cette petite femme, peu importe la difficulté, elle était persévérante. Elle avait la bonne approche face au don de Dieu. Elle avait la bonne approche, l'humilité. Elle était tombée à ses pieds. Elle avait de l'humilité. Elle ne s'est pas levée, n'a pas dit, maintenant attendez une minute. Vous savez ce que nous sommes grecs. Tu dis qu'on est des chiens. Attendez une minute, monsieur. Nous sommes des maîtres en art. Nous sommes maîtres de telle chose. Elle n'y a jamais pensé, mais pas un peu. Elle a juste admis qu'il avait raison. Et il est tombé à ses pieds. Il a dit, aide-moi si je veux manger seulement les miettes. Si ma fille ne peut pas avoir toute une tranche de pain, pourriez-vous lui laisser? Les miettes, si c'est un chien, oh là là, vous y êtes. Serions-nous satisfaits d'avoir seulement les miettes? Si le Saint-Esprit révélait ce soir quelqu'un, si tu es guéri, quelqu'un, tu es guéri, seriez-vous prêt à prendre seulement des miettes? Ou voudriez-vous que Dieu vienne vous et vous donne le genre de sentiment? S'il disait dans votre cœur, maladie, ma maladie est terminée, tu ne l'as pas, tu ne l'as plus. Je crois que je vais être guéri à partir de ce soir. Prendriez-vous les miettes? Ou voudriez-vous que tout le monde vienne mettre la main sur vous, verser de l'huile et de suivre les rituels habituels comme ça? Ou voudriez-vous? Vous chercherez-vous les maîtres? Dieu va honorer ça. Vous savez, beaucoup de disciples l'avaient vu après sa résurrection. Thomas dit, oh non, je ne croyais pas. Je dois mettre mes mains dans les marques de ses clous, dans les mains, dans son côté. Et il a dit, viens ici, Thomas. Il a dit, touche-moi. Il a dit, il a fait. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a dit, Thomas, parce que tu as vu et touché et tu as cru. Oui, Seigneur, il a dit, combien plus grand sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient en lui quand même. Sommes-nous prêts comme, sommes-nous les gens des nations comme cette dame? Est-elle un exemple pour nous? Donne-moi seulement les miens, Seigneur. Laisse-moi seulement entendre un homme. Je n'ai jamais lu la parole, mais dis-moi que tu guéris les malades. Cette miette me suffira. Je crois que j'entends. Et j'entends quelqu'un dire. Pierre a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés et pour le pardon de vous. Et vous recevrez les dons du Seigneur. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, je pense que c'est vrai. C'est une miette. Venez donc, c'est tout ce que vous avez devez faire. Venez! Sommes-nous prêts à prendre les miens? Sommes-nous prêts à nous humilier? Elle était prête à s'humilier. La foi admet toujours que la parole a raison. La foi est toujours humble. La foi s'humilie. Maintenant, elle cherchait seulement les miens. Regardez bien ce que Jésus a dit. À cause de cette parole, je suis prêt à accepter les miettes, Seigneur. À cause de cette parole, ton enfant est guéri. Tu as ta prière parce que tu la crois. La foi admet que la parole de Dieu a raison. La foi admet toutes ces choses. Marthe, Marie, tout au long de la vie, nous pourrions en nommer beaucoup de gens, les femmes shunamites, beaucoup de choses et des cas où nous pourrions nommer. Nous n'avons pas le temps de ceci. J'ai ici environ 5 pages écrites de maintenant qui se sont approchés de Seigneur. Mais laissons cela de côté. Je sens que le Saint-Esprit est proche. Je pense que ce soit nécessaire. Permettez-moi de vous faire part d'une petite expérience. Les hommes d'affaires ont écrit la petite chose là-dedans. Le petit article, il n'y a pas longtemps dans leur magazine. N'oubliez pas que lorsque vous imprimez quelque chose, vous avez intérêt à pouvoir le prouver. Nous avons une déclaration sur papier du médecin. J'ai remarqué à l'église ce soir pas mal d'Espagnols. J'étais au Mexico City et nous avions une réunion glorieuse. Je suis resté là environ 3 nuits. Il y avait un homme que j'appelle Mañana. Il devait me reprendre à 6h et il venait me prendre vers 9h. J'ai toujours. Et quand nous sommes arrivés à ce grand ring-là, j'ai pensé, ils ont dû me monter sur une échelle pour puis me faire descendre à l'aide de cordes. Et la veille soir, il y avait un homme mexicain qui était venu à la réunion. Et la veille, il pleuvait. Il était là à la condition. Il était venu sur l'estrade aveugle. Il est venu, j'ai regardé, j'ai porté de bons souliers, un bon complet. Et le pauvre vieil homme, il était pieds nus, son pantalon tout séché. Et je vais vous dire qui était mon interprète. Vous le connaissez? Frère Espinosa. Il était interprète, un frère pentecôtiste. Il interprétait. Nous avions eu environ, en 2 soirs, entre 30 ou 40 000 convertis au christianisme, au Saint-Esprit. Parce que vieil aveugle est venu. Et si vous ne ressentez rien pour les gens pour qui vous priez, il est dit de prier pour eux. vous devez vous mettre à leur place. Et je me suis dit, si mon vieux papa avait vécu, il aurait eu à peu près l'âge de ce vieil homme. Et le voici, il n'a pas de souliers et il n'avait pas de chemise, un vieux manteau en ayant plus serré. Peut-être qu'il n'a problème que le vieux n'a jamais eu un bon repas dans de sa vie. Puis, comme le dessin avait été cruel pour lui, le voilà qui chancelait dans la cécité. Ses yeux étaient blancs. J'ai regardé le vieil homme. J'ai juste mis mes bras autour de lui. J'ai dit, Père Céleste, si je pouvais lui donner mes souliers, je les retirerais subitement pour que personne ne le voie. Je lui donnerais mon manteau. Je l'enverrais sur la route, mais il est beaucoup plus large que moi. Mais Dieu, aie pitié de moi, j'ai pris de rendre-lui la vie. Il a crié, Gloria à Dios, j'ai regardé autour de moi. Il voyait bien que moi. Le soir suivant, il avait une étagère, la même longueur que ce bâtiment, à peu près comme ceci. Avec l'économie du Mexique est mal équilibrée. Peut-être qu'il est maçon, il pourrait gagner 16 pesos par jour. Il va falloir 4 jours de travail pour qu'il puisse acheter une pension. Mais il va devoir en économiser assez de cela pour payer plusieurs pour qu'une bougie de cire brûle sur un hôtel d'or d'un million de dollars pour ses péchés. C'est ce qui m'émeut dans tous mes états. De voir ces gens précieux, ils viennent là à 9 heures du matin. Pas de siège pour s'asseoir. Ils s'appuient les uns sur les autres comme des moutons dans un pâturage. Sous la pluie, ces femmes debout, les cheveux mouillés, trempés, entendant toute la journée, sous le soleil juste chaud et la pluie juste pour entendre la parole de Dieu. Oh, que feront-ils quand Phénix va s'élever au jour du jugement avec eux? Quand les bonnes églises partout et vous ne pouvez même pas les laisser entrer. Elle se tenait là, ou plutôt il se tenait là. Avec sa vie. Ce soir-là, quand je suis entré, il pleuvait encore. Frère, j'avoue, beaucoup d'entre vous le connaissent. Frère Pisson, plusieurs des frères étaient ici. Billy, mon fils, d'habitude, il distribue les cartes de prière. Il ne pouvait parler espagnol. Alors, il a dû laisser Manana le faire. Mais là, il est juste allé voir que Manana n'avait pas vendu les cartes de prière. C'est là qu'on doit faire attention, vous savez, à la vente des cartes de prière. Alors, il a seulement fait. Et ils sont allés voir qu'ils ne faisaient pas vendre, tendre les cartes. Ça me revient. Alors, j'étais sur le point de parler. Bien, Billy m'a tapé sur le point. Il a dit, papa, tu vas devoir faire quelque chose pour cette petite dame. J'ai presque 300 huissiers et ils ne peuvent même pas le retenir. Un petit bout de femme espagnole, environ, oh, comme ça, jolie petite femme. Elle avait un bébé mort dans ses bras. Et il a dit, Manana, tu suis toutes les cartes de prière. Et il a dit, elle n'a pas de cartes de prière. Il y a la fille d'attendre pour eux là-bas. Ils sont restés là debout depuis. Et il a dit, elle veut amener ce bébé mort ici. Et on ne peut pas la retenir. Ou bien, elle avait passé par-dessus. Courant. Elle était persistante. Elle voulait y arriver. Elle avait vu cet aveugle. Elle était persistante. J'ai dit, frère, moi, elle ne sait pas qui je suis. Elle ne sait pas qui est qui. Voilà, la bête plus pour elle. Ça va régler ça. Elle dit, d'accord, frère Branham. Billy l'a pris, passé par comme si c'était moi. Alors, il a traversé l'estrade. J'ai fait demi-tour. J'ai dit, je suis très heureux d'être ici. Et les réunions ici ne sont pas étranges pour vous, cher Félix. Juste devant moi, je vis un petit bébé mexicain sans dents qui riait dans une vision qui s'est passée juste ici. J'ai dit, attendez, une minute. Frère Espinosa, allez, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, allez au micro. J'ai dit, dis-lui de venir ici. Il a dit, Billy, tu ne peux pas le faire ici, venu avant toutes ces cartes de prière. Et j'ai dit, amène-la ici. Je viens de voir une vision. Et il appela, et ils sont venus, et le voilà qui arrive avec une. Comme si un petit bébé était couché là, mort, ce matin-là. Et la voilà qui arrive, les larmes coulant sur ses joues, ses petits yeux noirs, ses cheveux pendants. Une petite dame très charmante. Elle a couru sur la plateforme, elle s'est mise à genoux et s'est mise à pleurer. Elle a dit, Père, J'ai dit, lève-toi. Il me dit, j'ai pensé, Seigneur, si ce n'était pas ça, si ce n'était pas ça, je ne sais pas. J'ai vu simplement un petit bébé mexicain, petit, sans dents, ce petit chien. Il me sourit assis là. Elle pleurait. J'ai posé ma main sur la couverture mouillée. Elle pleurait alors.
Il pleuvait alors.
J'ai dit, Père Céleste, cette petite femme, sans doute dans mon esprit, mais tu es en train de l'exaucer. J'ai dit, j'ai vu la vision que tu sais être vraie d'un petit bébé. Je ne l'accepte que par la foi qu'il s'agit de ce bébé. Je ne connais ni la femme ni le bébé, mais quelque chose, tu opères aux deux bouts de la ligne. J'ai posé mes mains dessus et quand je l'ai fait, il a donné des coups de pied et a crié tout aussi fort qu'il pouvait le crier. La mère a secoué la couverture et il était là, vivant dans ses bras. Et j'ai dit, frère Spinoza, ne le note pas, mais envoie quelqu'un de bien loyal. Et elle racontait cela à un Mexicain, que le médecin avait déclaré son bébé mort atteint de pneumonie ce matin-là vers 8 ou 9 heures. Et il était 10 heures passées cette nuit-là. Et j'ai dit, envoyez et obtenez une déclaration écrite et documentée du médecin qu'il a déclaré mort. Et le médecin mexicain a écrit une déclaration, l'a signée. Et j'ai déclaré le bébé mort, sans respiration ni rien, dans mon bureau ce matin à 9 heures. Et voilà qu'il était 22 heures ce matin-là. Et le lendemain matin, le bébé était dans le cabinet du médecin pour être examiné. Il était de nouveau. Pourquoi? Parce que la petite femme était persistante. La foi ne connaît pas de défaite. S'il y a 5000 qui se tiennent là et que rien ne se passe, son église pouvait la chasser, ses voisins pouvaient s'en moquer, mais un Dieu qui pouvait ouvrir les yeux d'un homme aveugle la nuit d'avant pouvait résister, parce qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et toujours. Et si ce groupe de gens ici ce soir, les chercheurs de miettes, si vous l'êtes, le Dieu même qui vous a amené ici, qui pouvait vous conduire à un endroit comme ceci, le Dieu qui vous a sauvé, le Dieu qui pouvait vous remplir du Saint-Esprit, ce même Dieu peut effacer toute trace de la maladie et de douleur qu'elle soit dans votre cœur. Si vous croyez cela, persistant, persévérant, attendez la main et saisissez cette petite pierre de foi maintenant, dites, Seigneur, merci pour cela, mais voici, je viens. Le voisin dira demain, tu n'es pas guéri. Il dit, oh, mais je le suis, je le suis. J'ai trouvé une miette hier soir à l'église Four Square. Quelque chose s'est ancré en moi. Plus rien ne m'arrêtera, je l'ai. Inclinons nos têtes juste un instant. Avez-vous besoin d'une miette ce soir? Pourriez-vous prendre la miette et être persistant avec cela? La petite miette de foi qui vient, une petite grecque n'a jamais vu un miracle de sa vie. Une païenne idolâtre, elle a entendu dire que cela avait marché sur quelqu'un d'autre, mais elle avait vu ce mais elle a cru. Et toutes les déceptions qu'elle a eues, pourtant sur la base de quelque chose dans son cœur qui lui disait que son enfant pouvait être guéri. Vous savez, quand elle est rentrée chez elle, elle a trouvé sa fille couchée sur un lit. Le démon l'avait quittée. Pas seulement pour elle-même, mais pour sa fille qui n'était pas plus. Avez-vous besoin d'une miette ce soir? Si c'est là vous, si c'est le cas, voudriez-vous lever la main et dire, Seigneur, juste une miette, tout ce que je demande. Oh Père, c'est là, je demande ces gens de regarder ces gens de chiens qui cherchent des miettes. Les gens ne t'en ont pas, ils ont entendu dire que tu guéris les malades, ils ont entendu dire que tu remplis du Saint-Esprit, tu donnes du repos aux fatigués. Oh Dieu, accorde que ceux qui sont là ce soir crient comme cette précieuse petite dame qu'il y a bien longtemps. Seigneur, nous ne sommes vraiment pas dignes de recevoir ces bénédictions comme ton peuple Israël, mais nous cherchons seulement une miette qui tombe de la table du maître. Et ce soir, Il nous a été montré la glorieuse nourriture avec laquelle tu nourris ton église. Et ce soir, nous avons non seulement des miettes, mais nous sommes invités à la table. On n'a pas vraiment à prendre les miettes, mais on est content de les voir. Mais nous sommes invités à la table ce soir. Jésus a sa table dressée où tous les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple à lui à venir dîner. Accorde ce soir, Père, que tous ceux qui ont un besoin, que ces besoins soient satisfaits. Et tandis que nous avons notre cœur incliné, nos cœurs humblement devant Dieu, je me demande combien de personnes dans ce bâtiment ce soir ne sont pas sauvées. Que si Jésus venait et que le monde arrivait à sa fin ce soir, et vous êtes prêts à prendre la petite main de foi qui a été placée dans votre cœur et à venir à la table ce soir en présentant votre petite miette de foi devant Dieu, et vous aimeriez le faire, voudriez-vous vous lever et venir ici et vous laisser prier pour nous, et nous laisser prier pour vous ici devant l'autel. Voudriez-vous venir sans tarder? Venez simplement, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre voudrait venir? Que le Seigneur soit avec vous. Y aurait-il quelqu'un d'autre ici qui voudrait une miette, qui viendrait à la table du Seigneur? Seigneur, je ne suis pas digne de venir. Je suis un chien. Je ne suis pas plus digne que cette femme ne l'était, mais je viens juste pour une miette. Voudrais-tu venir? C'est peut-être la ta dernière fois. Vous voyez comment le monde devient aujourd'hui. Les gens ne veulent plus venir. Vous pouvez à peine convaincre. L'Évangile nous dirait. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est merveilleux. Restez juste là un instant. Que quelqu'un d'autre qui vienne. Je pense que Dieu te bénisse. Fiston, que Dieu vous bénisse, c'est vrai, venez simplement. Je veux une miette, Seigneur, une miette, c'est bon pour moi. Quelque chose a touché mon cœur maintenant. Que Dieu vous bénisse, Fiston, que Dieu vous bénisse, mon fils.
Someone else feel a little crumb in your heart of faith that would entice you to come to the table.
Je descends, que Dieu vous bénisse, Fiston, que Dieu vous bénisse, mon frère, tenez-vous ici.
Young man standing here?
Quelqu'un d'autre sent une petite miette de foi dans votre cœur qui vous incite. J'ai prêché sur une femme ce soir. Et ce sont des hommes qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Vous ne voulez pas venir aussi pour la miette? Avez-vous ce petit peu de foi qui vous dit que vous avez tort? Vous dites, bien, je ne sais pas ce qu'une miette, frère Branham. La miette, c'est ce qui est au fond de votre... Au fond de vous, votre, de vous maintenant, ça vous dit que vous avez tort.
Rise up and come sweetly.
Vous devriez vous repentir, allez-y. Levez-vous et venez doucement, rapidement à la fontaine remplie de sang. N'allez-vous pas sortir. J'ai tort, mon frère. Priez pour moi, venez. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre? Je veux juste une miette, Seigneur. Cette petite miette dans mon cœur, je viens maintenant vous la présenter. Voulez-vous venir? Maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui est rétrograde, qui est parti et que vous aimeriez venir? Est-ce que vous viendrez maintenant? Certains sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Oh, mon ami, si cette lumière est devenue si réelle pour vous au dernier jour, ne viendrez-vous pas vous aussi vous tenir debout? C'est peut-être le moment où ce grand désir dans votre cœur, quelque chose qui... Je crois que le Seigneur va me donner le Saint-Esprit ce soir. Je veux venir me tenir. Venez autour de l'autel. Le feriez-vous? Tenez-vous avec vous. Tenez-vous avec pour prier. Si un homme peut venir de l'Ohio, venir ici en avion, que Dieu vous bénisse, frère. Un presbytérien peut venir de l'Ohio, ici en avion, en réaction pour se tenir à l'hôtel. Qu'en est-il des gens de Phoenix? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Restez ici. Restez juste un instant. Ne voulez-vous pas venir? Tirez de veines d'Emmanuel. Voulez-vous venir là où la fontaine est ouverte ce soir, juste remplie de bonnes choses de Dieu? Je me demande, pendant que nous attendons un instant qu'il y a plus que cela, s'il serait prêt à prendre les miettes. Certainement, qu'il devrait y avoir. Ne voulez-vous pas venir? Faites ce que je vous demande. Prenez-le sincèrement dans votre cœur. Dites, j'arrive. C'est mon heure de venir. J'arrive de toute façon. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. C'est très bien.
We're waiting now patiently for you to come.
Nous attendons maintenant patiemment que vous veniez.
Let's bow our heads now while we're
waiting. Inclinons notre tête maintenant alors que nous attendons. Nous chantons ce cantique de l'église. Il y a une fontaine remplie de sang tiré du manuel. Voulez-vous venir maintenant? Vous ne voulez pas prendre votre miette et venir? Sous ce flot. Si vous voulez le Saint-Esprit, ne voulez-vous pas venir entrer maintenant? Perdre toutes leurs tâches de culpabilité. Perdre toutes leurs tâches de culpabilité. Et les pécheurs plongés dans... Venez, mon ami. Le voleur mourant réjouit de voir juste ici à l'hôtel, et vous? Bien qu'aussi vil que lui, lavez tous ses péchés. Que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est comme ça qu'il faut le faire. Je
veux demander
si les ministres ici présents s'élèvent ici avec nous, ministres dans le bâtiment, venez vous tenir ici avec nous une minute maintenant, des instructeurs qui s'intéressent aux âmes perdues. Puis-je, bien qu'aussi vil que lui, lave tous mes péchés. Je me demande s'il y a des ministres ici, des instructeurs, des instructeurs de la parole qui aimeraient venir. Souvenez-vous, les destinations éternelles sont en train d'être décidées en ce moment même. Il y a 7 ou 8 personnes debout ici. Et vous savez ce que ça veut dire? Une âme vaut 10 000 mondes. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Maintenant, vous qui êtes malade et qui voulez qu'on offre la prière à la foi, prière de la foi pour vous, voulez-vous tenir juste là où vous êtes? Vous qui êtes malade et dans le besoin, c'est bien. Maintenant, mes frères ministres, c'est-à-dire, posez vos mains sur ces gens. Maintenant, vous les malades, tenez-vous assez près de les uns des autres pour pouvoir vous mettre les mains les uns sur les autres. Bon, la Bible vous dit à vous qui êtes malades, ces signes accompagnant ceux qui ont cru. Vous devez être croyant, sinon vous ne serez pas debout. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous savez ce que c'est vrai. Ce sont les Écritures qui ne peuvent faillir. Et à ces pénitents qui viennent à l'autel, mes frères et sœurs qui viennent à l'autel ce soir, des êtres mortels qui savent que vous devez un jour faire face à Dieu. La Bible dit que le péché de certains hommes les précède et ceux des autres les suivent. Vous confessez le vôtre ce soir, que vos péchés vous précéderont, seront pardonnés grâce au sang du Seigneur Jésus. Et vous qui cherchez ici le baptême du Saint-Esprit, Dieu a fait la promesse dans Actes 10. Nous lisons dans Actes 10, tandis que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux qui l'écoutaient. Ils avaient tellement faim. Maintenant, vous avez faim. Vous avez amendé cette petite miette ici. Maintenant, Prenons un vrai complet de bénédiction de Dieu. Tout ça, c'est pour vous. Maintenant, vous qui croyez à la prière, prenons la tête ensemble, prions maintenant. Maintenant, oubliez ce qui est autour de vous. Sachez qu'il n'y a personne autour de vous à part Jésus-Christ. Chacun prie comme vous le faites, comme vous avez l'habitude de prier. Frère, posez vos mains sur ces gens et croyons maintenant que le Saint-Esprit va venir accomplir ces choses que nous demandons. Notre Père céleste, nous ne sentons pas que nous sommes venus ici en vain. Nous te remercions pour ces âmes. Nous savons que tu es ici pour les sauver. Je prie que tu les accordes, que tu l'accordes, Seigneur. Puisse leur foi regarder au-delà de l'homme. Que ceux qui cherchent le Saint-Esprit, qui ont les mains des croyants sur eux, les malades et les affligés, puisse la puissance de Dieu entrer dans ce bâtiment d'un bout à l'autre de ses allées et aller à ces gens et sauve tout péché, remplit tout croyant du Saint-Esprit et guérit tout maladie. Accorde ces choses, Seigneur. Je crois que tu es ici. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tes promesses ne peuvent faillir. Nous croyons que tu as commissionné ton église et qu'ils sont montés dans la ville de Jérusalem. Ils se sont rendus à la chambre haute et étaient là, continuellement louant et bénissant Dieu. Et soudain, vint du ciel le bruit comme d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Tu es le même et tu es capable de faire la même chose. Quelle est la puissance qui a descendu le jour de la Pentecôte, bâtisse ce groupe de personnes ce soir dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. J'offre cette prière au nom de Jésus pour ces gens, pour la gloire de Dieu. Levez vos mains maintenant, la prière de la foi a été offerte. La prière de la foi du pardon. Levez les mains, dites, loué soit le Seigneur. Commencez simplement. Allez louer, allez bénir. Confessez vos péchés et croyez de tout votre cœur. Levez les mains, dites à Dieu, merci Seigneur Jésus. Je crois en ce moment même que tu me donnes l'Esprit du Seigneur qui te baptise du Saint-Esprit.